Dans le Énervé la suite ce soir, on remet le référendum en question avec nos invités. Mais avant de commencer, petit essai micro pour chacun et chacune. Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste au Figaro, en charge notamment de Figaro Vox. C'est bon ?
C'est bon.
Nicolas Domenac, journaliste politique, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire et co-auteur du livre Le tueur et le poète qui vient de paraître chez Albin Michel. Ça vous va ?
Le poète, c'est moi.
J'ai bien compris. Claude Posternak, vous êtes créateur du baromètre Posternak IFOP et fondateur de La Matrice. C'est une agence dédiée à l'opinion et de l'important.fr. Vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche et vous signez Le Nouveau Partage aux éditions Fauve. J'ai bien tout dit ?
Et le tueur, c'est moi.
Ah, beau casting ce soir. Danielle Simonet, comédienne, conseillère municipale.
Comédienne, ça peut exagérer.
J'y tiens.
Alors, ouais.
Comédienne.
Gesticulante.
Conférencière gesticulante.
Conseillère municipale du 20e arrondissement de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. C'est bon pour la présentation ?
Oui,
mais allez.
Comédienne est de trop quand même, franchement.
On l'enlève, tout est bon.
Vous pouvez faire une petite touche, conférencière gesticulante.
Eh ben c'est voilà, parfait, c'est générique.
C'est conférencière gesticulante.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite du lundi ce soir. C'est oui ou c'est non, mais ah, vraiment, quelle est la question ? Entre l'acte 10 des Gilets jaunes samedi dernier et le voyage du président de la République et de son gouvernement à travers la France, dans le cadre du grand débat, une proposition tient bon depuis le début du mouvement social. Une proposition résumable en trois lettres, RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Les trois Gilets jaunes qui ont traversé à pied la France depuis Arles sont arrivés à Paris hier et se présenteront demain symboliquement à l'Assemblée pour déposer leur demande de mise en place de ce fameux RIC. Une idée largement soutenue par les Français. Si l'on en croit un sondage LCI Opinion Way, 73% des sondés sont favorables au RIC contre 25%. Alors, si le président de la République semble se méfier du RIC, plusieurs voix au sein de la majorité défendraient l'idée de redonner malgré tout plus de place à la démocratie directe et participative, sans pour autant, bien sûr, remettre à plat notre démocratie représentative. Référendum, piège à contre, c'était mon titre. Il était excellent, Christophe Bourseiller.
C'est pas mal.
Vous n'en avez pas eu d'autres. Le grand débat du Énervé, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller.
Vous devriez faire de l'editing, Laurent, vous étiez formidable. Écoutez, mon cher Laurent, je profite de ce moment au calme, loin du tumulte du monde, en privé et même en toute confidentialité, pour vous faire une proposition. Je propose d'initier, de lancer, d'organiser un référendum sur le thème « oui ou non aux Parisiens ». Oui, car en effet, si on y réfléchit bien, Laurent, une majorité de Français, résidant pour la plupart en région, estime que les Parisiens sont méprisants, hautains, agressifs, prétentieux et privilégiés. Dès lors, un référendum sur la destruction de Paris pourrait faire un tabac. Et si le non l'emporte, il faudrait planifier l'anéantissement de la capitale, soit par bombardement, soit par incendie, ou bien, pire encore, organiser le déplacement, c'est un euphémisme, de tous les Parisiens. Alors, je galège, Laurent, oui. Et non, car avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est l'opinion qui se voit couronnée. Alors verra-t-on bientôt un référendum sur la peine de mort, un autre sur l'avortement, un autre enfin sur le mariage homosexuel ? Le référendum à tout va, est-ce la clé de la démocratie ? Encore faut-il qu'il soit à tout va. Alors Alexandre Devecchio, vous défendez l'idée du référendum, pourquoi ?
Pourquoi je défends l'idée du référendum ? Parce que je crois qu'il y a une crise de la représentativité terrible aujourd'hui. Les Gilets jaunes, c'est l'expression d'une défiance à l'égard, je crois, de tous les partis politiques, à l'égard aussi des médias, des syndicats. On voit bien qu'il y a un échec profond des corps intermédiaires. Un doute légitime qui s'est instauré, parce qu'on parle de référendum. Je crois que c'est aussi l'effet boomerang du référendum de 2005, où les Français avait voté non et finalement les politiques Nicolas Sarkozy se sont assis dessus et ont dit oui par la voix parlementaire. Donc je crois quand il y a une telle crise et un tel décalage entre les gouvernants et les gouvernés, le référendum d'initiative populaire peut être un bon moyen de faire évoluer la démocratie. En Suisse, au XVIIIe siècle, on a mis en place ce système dans la nouvelle constitution pour mettre fin à une guerre civile finalement. Alors je ne dis pas qu'en France on est en guerre civile, mais le pays est un peu ingouvernable, donc je crois que ce serait une bonne chose. Après, avec des limites, moi je suis pas pour un référendum révocatoire, par exemple. Je pense que c'est tout à fait compatible avec le Parlement, qu'on doit malgré tout gouverner dans la durée. Mais je pense qu'il faut redonner la parole au peuple, et je ne comprends pas cette aversion de la classe dirigeante pour le référendum, qui fait un peu penser à l'aversion de l'Église au XVIe siècle pour la lecture directe de la Bible.
Claude Bassanac, les catholiques se rebellent contre les protestants.
Le 16 novembre 2016, le président de la République à l'époque était candidat. Il venait d'annoncer sa déclaration de candidature et il nous regroupe à quelques centaines au nouveau siège d'En Marche. Et il nous dit une phrase qui était assez surprenante au moment où il lance sa campagne. C'est dire, autour de cette table, il y a beaucoup de divergences. Gardons-les. Alors pourquoi je fais ce préalable ? Parce que j'ai des divergences avec le président de la République sur ce sujet. Donc je les garde. Et je rejoins ce que vous dites. Je pense aujourd'hui que le référendum exprime quelque chose d'extrêmement profond dans la société française. Lorsqu'on parle de 73% de Français qui sont pour
ce référendum-là,
qu'est-ce qu'ils nous disent ces 73% de Français ? Ils nous disent...
Mais ils disent quoi en fait ? Ils veulent une sixième république ?
Non, absolument pas. Absolument pas. Ils nous disent, on veut pouvoir parler, on veut pouvoir peser dans la situation politique. Aujourd'hui, considérer qu'on interroge les Français tous les 5 ans et que ça va suffire, ça ne fonctionne plus. Vous avez les réseaux sociaux, tout s'accélère. Il faut repenser cette démocratie. Cette démocratie, aujourd'hui, doit respirer. Une façon de respirer, c'est le référendum. Alors, dans les mesures que vous avez indiquées, c'est-à-dire dans les réserves qu'il faut mettre, mais il faut toujours faire confiance au peuple. C'est un principe démocratique.
Donc ça veut dire que tout le monde est d'accord ce soir, parce que Daniel Simonet n'en attendait pas tant, j'imagine.
Mais oui, alors, moi j'aime bien justement les débats où il y a une confrontation.
Vous avez quelqu'un de la République En Marche et vous êtes d'accord avec vous.
Non, mais alors, il n'a pas utilisé le bon bulletin de vote pour rejoindre la France Insoumise, qui dans son programme L'Avenir en Commun avait déjà défendu la question du référendum d'initiative citoyenne. Mais il faut comprendre qu'on est dans une crise démocratique profonde, la Ve République,
donc
avec son fonctionnement.
Ça. C'est un appel à la Sixième République.
Monarchique, est totalement dépassé. Et les citoyens et citoyennes voient bien qu'ils ne sont pas représentés par ceux qui gouvernent et qu'on est plutôt dans une logique oligarchique aujourd'hui. Je veux dire, la rencontre de M. Macron en ce moment à Versailles pour le Choose oligarchie, le Choose France, en témoigne. Je veux dire, on est sur une politique qui concerne et qui sert les intérêts des plus riches, hein, des patrons du CAC 40, et totalement déconnecté du reste des citoyens et des citoyennes. Donc, la question du référendum d'initiative citoyenne qui puisse être à la fois abrogatoire, législatif, révocatoire et permettant aussi de convoquer la constituante, pour nous est extrêmement important. C'est pour ça que la France Insoumise en fait une proposition
de loi. Vous avez une conception très large.
Oui.
C'est une conception débattue, parce que révocatoire, ça veut dire je n'aime pas mon député, on fait un référendum et on le bazarde. Ah bah en tout cas, le RIC voulu par les Gilets jaunes, il y a 4 ans. Législatif, c'est-à-dire proposer une loi, révocatoire, mettre fin au mandat d'un élu, abrogatoire, supprimer une loi, constituant, c'est-à-dire modifier la constitution. On peut dire quand même, c'est un risque d'instabilité démocratique, non, Nicolas Domenac?
Ah, totalement. Bah c'est pour ça que je la suivrai absolument pas.
J'espère bien, oui.
Je pense qu'il faut réfléchir un peu avant de galoper derrière des slogans comme ça, quoi. Parce qu'il y a des risques grands. Il y a un besoin de respiration, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. Simplement, première chose, on n'est pas forcé de monopoliser toute notre attention sur un seul mot d'ordre, RIC, que le grand RIC me croque. Non, il y a peut-être d'autres solutions aussi qui sont intéressantes. Je veux dire, revoir le mandat des députés, par exemple, le faire qu'ils aient un mandat de 4 ans et que le président garde son mandat de 5 ans, ça pourrait donner une respiration aussi. Mais parce que je crains, si je parle des députés, je crains que s'engouffre derrière ce slogan-là une volonté de remettre en cause la démocratie représentative, quoi. C'est-à-dire, on balance tout, les députés... D'ailleurs, on l'entend dans les propos qui sont tenus. C'est-à-dire, c'est cette façon démagogique de dire que le député ne représente plus rien du tout, que seul le peuple, la voix du peuple compte. Donc,
la peine de mort... Les députés qui sont pris à partie, voilà. Au même titre que les journalistes, au même
exactement,
titre que
donc
politiques.
La peine de mort, on va revenir dessus, on va démarier
personne
les homosexuels...
Demandé, personne ne l'a demandé.
C'est la logique de ce que vous proposez, c'est-à-dire que ça a du sens. Alors que simplement, je crois qu'il faut effectivement prévoir des respirations, mais je suis plus favorable, moi, à des référendums régionaux, par exemple, sur des questions locales, et je pense que s'il y a des référendums nationaux, c'est au Conseil constitutionnel, au fond, de vérifier...
Des articulations. Je vous suis, Nicolas, parce que je pense qu'il faut repenser la vie démocratique, et je ne vous suis pas sur ce principe 6e République de tout balancer. Il est hors de question. Mais il existe des exemples, il suffit d'aller voir à l'étranger, vous allez dans les pays baltes, en particulier en Estonie, il y a un site par exemple qui s'appelle Ma Voix. Lorsqu'il y a 500 000 signatures sur Ma Voix, il y a une obligation du Parlement de tenir compte de la loi qui est proposée par ce site. Ils le votent ou ils le votent pas, mais ils sont dans l'obligation d'en tenir compte. Donc il y a plusieurs façons de penser cette démocratie en restant dans un cadre de démocratie représentative, puisqu'il...
Non mais alors là c'est la porte ouverte à tous les lobbies.
Non, à partir du
mais
moment...
Mais est-ce que c'est pas dans la logique macronienne ce que vous dites là, Claude Posferdak, et même on voit bien dans le livre par exemple de Nicolas Domenac, parce que dans votre livre vous montrez à quel point Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, tente de se passer des corps intermédiaires. Alors il a beaucoup vexé Laurent Berger de la CFDT parce qu'il ne s'appuyait pas sur les syndicats modérés quand il y a eu la convergence des luttes au printemps 2018.
Et
en même temps il y avait dans sa démarche, son livre s'appelait Révolution avant d'être élu. L'idée peut-être d'aller vers une démocratie un peu référendaire.
Ça partait d'une réalité objective qui nous est criée tous les jours, tous les ans par CEVIPOF, les études de Sciences Po qui montrent l'état de l'opinion. L'état de l'opinion font qu'aujourd'hui, il y a un problème avec les corps intermédiaires. Mais il y a une réalité objective. Si vous prenez la CGT avait 6 fois plus d'adhérents à la Libération qu'aujourd'hui. Globalement, la CGT, elle pèse, je parle dans le privé, moins de 1% des salariés. Et on est dans un cas extrêmement particulier. Vous parlez d'intermédiaires, mais là, c'est important, la représentation sociale et syndicale. Nous avons une particularité. Nous sommes le pays d'Europe qui avons le moins de syndiqués. Et paradoxalement, nous sommes le pays d'Europe qui avons le plus de permanents syndicaux. Donc, vous êtes dans une crise où les gens ne se reconnaissent plus. C'est-à-dire, ils ont l'impression que les gens ne défendent plus leurs intérêts et défendent leur propre intérêt, entre guillemets, de caste ou d'organisation. Donc, il faut repenser des corps intermédiaires parce qu'on en a besoin, mais c'est vrai aussi que le président de la République, lorsqu'il fait la grande marche, c'est une façon d'aller directement à l'écoute de l'opinion.
Alors, on va revenir sur ce débat dans quelques instants avec Alexandre Devecchio qui se demande quand est-ce qu'il va pouvoir prendre la parole. Puisqu'il est question de référendum, je vous propose une question. To be pop ou to be folk? Eh bien, les Canadiens de Fox Warren ont répondu dans l'énervé.
To be.
Le nouveau rendez-vous.
I'm absolutely angry, heartbroken.
Je me sens trahi par ce pays, par ce gouvernement, par ces Anglais.
By the English people.
With no deal, we would have no.
Si on ne valide pas l'accord, ce serait un déni de démocratie.
C'est un référendum qui a été manipulé de l'extérieur par beaucoup de ce qu'on appelle les infox aujourd'hui, où on a dit tout et n'importe quoi, puis après on a dit non, débrouillez-vous.
Sur France Inter.
En Suisse, les votations populaires sont en place depuis le 19e siècle.
Réforme fiscale, immigration, protection des cornes de vache, beaucoup de sujets sont soumis au vote.
Quand on vote, je trouve que ce qui est important aussi en Suisse, c'est qu'on pense jamais à l'individu, en fait, on pense toujours à la collectivité. Bah oui, c'est une richesse qu'on n'aimerait pas du tout lâcher, alors ça c'est sûr.
Au NRV, la suite ce soir, le référendum dans tous ses états. On en parle avec nos invités, les journalistes Alexandre Devecchio, Nicolas Domenac, le spécialiste de la communication Claude Pasternak de La République En Marche et l'élu oratrice de la France Insoumise, Danielle Simonet. On vient d'entendre à l'instant deux situations très différentes. D'un côté, le référendum pour le Brexit et l'instabilité politique sacrée en Grande-Bretagne. Et puis de l'autre, le système de votation en Suisse qui serait vivifiant et même une richesse pour la démocratie helvète. Comment vous regardez ces deux utilisations du référendum, Alexandre Devecchio, au vu de ce qui est réclamé aujourd'hui en France? Parce qu'on voit bien quand même que quand on répond à un référendum, on ne répond jamais véritablement à la question qui est posée.
Bon, ça c'est un diagnostic qu'on fait à mon avis un peu vite. Je crois que les Anglais ont répondu à la question qui était posée.
Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent même revenir sur ce.
Ce qu'on dit. Je suis pas sûr que si on refaisait un vote, il y aurait un résultat différent. Aujourd'hui, il se trouve que l'Angleterre négocie avec l'Union européenne une sortie de l'Europe. Voilà, c'est un débat politique qui est enclenché, qui est compliqué. Pour l'instant, il y a de la stabilité, mais bon, la situation de l'Angleterre, on nous avait dit quasiment qu'elle serait submergée, que ce serait le chaos. Ils ont un taux de chômage bien plus enviable que le nôtre, un taux de croissance également, donc c'est pas du tout le chaos en Angleterre. Donc il faut que ça se passe, qu'il y ait une négociation. Et je crois que là, on touche à un des cœurs du sujet. Je crois que si aussi il y a une demande de davantage de démocratie, c'est qu'aujourd'hui, et que le Parlement français est aussi faible, c'est qu'il se contente de retranscrire la plupart du temps des directives européennes. Et qu'on a le sentiment que le pouvoir politique est de moins en moins au politique.
Oui, mais
il est soit
Devecchio...
aux technocrates à Bruxelles, soit au pouvoir économique.
Oui, mais...
Donc, comme les politiques ne sont pas capables de peser, aujourd'hui, le peuple veut reprendre directement la main.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, on n'assiste pas, par exemple, quand on voit la construction européenne, il n'y a pas une forme d'instrumentalisation du référendum? Je prends par exemple l'exemple de l'Irlande, où il me semble me souvenir que les Irlandais ont voté 3 fois de suite par référendum, jusqu'à ce qu'ils disent oui.
Est-ce qu'il y a un problème
vis-à-vis justement de cette démocratie?
Il n'y a plus de démocratie en dehors des traités. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Juncker qui le dit. Et c'est vrai qu'on est dans une démocratie où on a l'impression qu'il n'y a qu'une politique possible, qui est celle de l'ajustement à la mondialisation. Et c'est ça aussi. Depuis 40 ans, on voit bien qu'il y a des majorités différentes, mais globalement, la ligne libérale, techno-libérale, est la même d'un gouvernement à l'autre.
Daniel Simonet.
Oui, on voit bien que la construction de l'Union européenne se fait sans le peuple et contre le peuple. Les Français ont voté. Ils ont voté non à 55% le 29 mai 2005. Et par la suite, on n'a absolument pas respecté leur non. Au contraire, tous les traités, enfin, le nouveau traité a été totalement intégré. C'est la même chose en Irlande. Non, ça va pas à l'encontre du référendum. C'est à l'encontre des institutions et des dirigeants qui bafouent la souveraineté du peuple quand elle s'exprime. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que c'est le peuple qui est souverain, et donc on respecte quand il y a un vote, un référendum, on respecte la décision du peuple, ou est-ce qu'on s'assoit dessus? Aujourd'hui, on voit bien que la construction européenne ne respecte pas la souveraineté du peuple, et que le problème aussi de notre 5e République, c'est qu'elle ne respecte pas. Sur la question du référendum d'initiative citoyenne, pour réagir à ce qu'a dit M. Domenac, est-ce qu'il faut tout balancer, et c'était un peu comme ça qu'a été présentée notre aspiration à une 6e République. La 6e République, c'est pas tout balancer. C'est de se dire que quand on a une crise démocratique aussi profonde, eh bien, il faut refonder le peuple et refonder les institutions. Et c'est pour ça que le référendum d'initiative citoyenne, pour nous, en fait partie, mais ça n'est pas limité. Et sur la problématique des droits humains fondamentaux, qu'il s'agisse... On parle souvent de la peine de mort ou de la question du mariage pour tous.
Du
mais je pourrais rajouter
tous, oui.
d'autres droits humains fondamentaux qu'on voudrait voir inscrits dans la Constitution, comme le droit de mourir dans la dignité, ces problématiques-là. Eh bien, nous souhaitons que ces droits humains puissent justement être partie intégrante de la Constitution, ce qui permettrait justement de faire en sorte que dans la Constitution... co-élaborée dans le cadre d'une assemblée constituante, on fasse bien un débat à part dans notre société. Et que les référendums par la suite, qu'ils soient abrogatoires, législatifs ou révocatoires, il faut quand même un seuil de pétition. 2% par exemple pour un référendum législatif ou abrogatoire, et au moins 5% pour un référendum révocatoire. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a une dynamique qui peut s'enclencher, qui permet à la fois de respecter la souveraineté du peuple et en même temps d'avoir un certain nombre de règles de stabilité.
Nicolas Domenech.
Oui, et ensuite, Claude Bassanac. Il y a quelque chose qui me fait toujours sourire, Daniel Simonet, mais quand j'entends les représentants éminents de la France insoumise, quand ils me parlent de la 6e République, comme ils sont calqués sur le modèle de la 5e, avec à leur tête un monarque ou aspirant à l'être, je veux dire, une grosse tête, Jean-Luc Mélenchon, quoi, le roi des insoumis. Donc quand vous me dites...
la République, c'est lui. La République, c'est lui.
Je veux dire, un mode de gestion autocratique, mais on peut pas rêver plus ou mieux ou pire. Ne sais pas. C'est le premier point. Mais attendez, c'est pas seulement une critique, c'est que la France,
c'est la France, comme disait le général de Gaulle, qui a défendu le fait qu'il n'y ait plus justement de président de la République.
Oui, bien sûr. On a vu avec Mitterrand déjà l'homme qui voulait renverser les institutions. Mais c'est pas forcément une critique parce que ce qu'il y a en France, c'est qu'il y a en France au fond un esprit monarchique qui demeure. Emmanuel Macron,
si vous vous débarrassez de ça, vous n'avez pas à tomber dans la 4e République,
c'est un des risques. Mais c'est vrai qu'il y a un esprit monarchique en France, on veut être gouverné par un roi. Mais ce à quoi n'avait pas pensé suffisamment Emmanuel Macron, c'est qu'on veut aussi lui couper la tête. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut effectivement un référendum. Mais vous balayerez pas l'aspiration monarchique comme ça. Et pour terminer, je vous rappellerai quand même que l'Europe, c'est vrai qu'elle s'est pas faite avec les peuples. Mais parce que les peuples, après la guerre, en particulier les Français, ils en voulaient pas. Et c'est les élites qui ont vraiment assumé leur rôle et qui ont créé une Europe, je veux dire, pour établir la paix, y compris contre les peuples quand il le fallait. Alors maintenant, il faut tenir compte de leur avis, c'est vrai, et le faire avec eux.
Daniel Simonet, elle a imposé la concurrence entre les peuples.
Ce qui m'inquiète, c'est l'inconscient. Si on écoute un peu ce que vous avez dit, inconsciemment, vous avez dit « refonder le peuple ». Refonder le peuple.
C'est pas inconscient, je pourrais même vous répondre.
Oui, mais refonder le peuple, le peuple, il n'a pas besoin d'être refondé, il n'a pas besoin d'être éduqué. On voit ce que ça donne quand on le refonde et quand on lui dit ce qu'il faut faire. Plus globalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous connaissons une crise des institutions, une crise politique, une crise médiatique, une crise extrêmement large, qui est d'abord une crise des élites. Pourquoi Emmanuel Macron a été élu? Parce que pendant 30 ans, les élites ont fait énormément de promesses et à l'arrivée, il n'y a rien eu. Bon, c'est une réalité. Cette réalité fait que aujourd'hui le peuple se dit je crois à la délégation de pouvoir. Il n'y a pas de remise en cause de la délégation de pouvoir. La seule condition, c'est que les élites réussissent. À partir du moment où elles ne réussissent pas, les gens ont tendance à considérer qu'ils ne feront pas plus mal que les élites. Donc, d'une certaine manière, je préfère que ce soit le peuple qui se trompe que ce soit les élites.
Je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire quand vous dites qu'on ne refonde pas le peuple.
C'est ce que vous avez dit. Hein,
moi, ce que je dis. Oui, mais justement, je précise ce que je dis. Je pense que le peuple lui-même, en tant qu'acteur politique, se refonde quand il participe à la constituante et qu'il définit quels sont les droits humains fondamentaux. Et il y a une grande différence entre un référendum décidé par un monarque ou un Napoléon et qui instrumentalise la question et qui instrumentalise le peuple, et un peuple en acteur politique qui organise la délibération collective et qui pose la question. Dans le référendum de 2005, on a pu constater une élévation de la compréhension où tous les citoyens se sont appropriés ce pavé imbitable qui était écrit pour être justement incompréhensible. Eh bien, les citoyens ont fait l'exercice démocratique.
Je crois que oui, effectivement, pour le coup, il y a eu 80% de participation. Ouais. Il y a eu un vrai débat. C'est pour ça que je pense qu'ils ont répondu à la question. Et le référendum, c'est aussi un moyen de responsabiliser le peuple, je crois, de lui faire prendre son destin en main.
Si après, parler des Français au lieu de parler de peuple.
Ou des Français. Et moi, je ferais bien la synthèse entre Daniel Simonet et Nicolas Domenech. Je pense que pour le coup, le référendum est parfaitement compatible avec la monarchie républicaine. Je crois que c'était même dans la tête du général de Gaulle. Alors, c'était avec un septennat sur la durée, mais pour le coup, il y avait un pouvoir extrêmement vertical, autoritaire, mais il prenait soin de faire faire vérifier sa légitimité par des référendums réguliers. D'ailleurs, quand il a perdu, il est parti. Donc je crois que c'est tout fait logique. Avec les nouveaux moyens de communication, etc., on pourrait accentuer tout ça, faire preuve d'un peu plus de démocratie directe et peut-être revoir, pour le coup, moi je suis pas très favorable au quinquennat, on pourrait imaginer peut-être le retour du septennat avec des législatives au milieu et par contre des consultations plus régulières des peuples. Et ensuite, dernière chose, moi je pense que si on en arrive là aussi en France, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative populiste crédible. Le Front National finalement paralyse la vie politique française, il stérilise 30% des voix sans être une réelle solution. Donc on ne voit pas d'alternative à ceux qui dirigent depuis des années, c'est-à-dire les sociolibéraux ou les libéraux sociaux. Et donc peut-être que la solution, c'est effectivement d'avoir une négociation directe entre les élites et le peuple par voie référendaire.
On va revenir sur cette idée de référendum dans quelques instants, en parlant notamment par exemple de ce qui peut se passer en Italie ou même au Portugal, puisque le référendum est un moyen de gouverner. Ce sera la troisième partie du NRV. Question of Time, Dépêche Mode, programmation et tease de Jean-Baptiste Audibert.
Yes. Rendez-vous.
Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de référendum d'initiative citoyenne ?
France Inter.
C'est un référendum qui permet au peuple de participer à l'élaboration des lois, à la création des lois, à leur retrait.
On arrive à un moment du nouveau pouvoir.
Que le peuple ait les moyens de pouvoir s'exprimer.
Pour pas subir, on se dit qu'on peut s'organiser. Eh bien ça, c'est rafraîchissant pour la démocratie.
Le nouveau rendez-vous.
Si on disait, on peut créer un référendum qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie représentative, qui malgré tout,
Laurent Goumard,
est la seule qui tient les contraintes.
Au NRV la suite ce soir, le grand débat c'est le référendum. On se demande si la réforme constitutionnelle doit passer par le RIC ou au contraire s'il y a un hic dans le RIC pour la démocratie en France. Pour en parler, deux journalistes, Alexandre Devecchio du Figaro, Nicolas Domenac du Nouveau Magazine Littéraire, le spécialiste de l'opinion Claude Posternak de République En Marche et Daniel Simonet du côté des Insoumis. Petit tour du monde. En Italie, 500 000 électeurs aux 5 régions peuvent demander un référendum abrogatif, donc destiné à annuler une loi. Pour abroger une loi au Portugal, la barre est fixée à 75 000 électeurs, mais l'approbation des parlementaires est nécessaire pour modifier la Constitution. C'est une solution intéressante, ce genre de programmation ?
Bah, c'est la preuve, que ça fonctionne, quoi. Que c'est pas des dictatures, contrairement à ce que j'entends, ou que c'est pas la porte ouverte à une démagogie totale. Pour le coup, je trouve ça, plus intéressant en Suisse, où on peut se saisir vraiment de tous les sujets. Je crois que c'est 100 000 signatures, voire même 50 000 quand c'est une loi déjà existante. On peut, à mon avis, en France, faut mettre le nombre de signatures de manière bien plus élevée, puisqu'on a plus d'habitants. Mais disons qu'au Portugal et en Italie, c'est sur des sujets constitutionnels, donc c'est plus réduit. Moi, je suis pour aller plus loin et que les Français puissent s'emparer de tous les sujets et pas seulement des sujets constitutionnels.
Tous les sujets, Nicolas Domenech ? C'est de la folie. Ah,
non, mais certainement pas. Je veux dire, c'est totalement inapplicable. Voilà, on peut toujours rêver. Mais
ça s'applique
fait peur.
En Suisse.
Moi, il y a quelque chose qui me fait peur quand même dans cette mécanique folle qui s'est enclenchée. Voilà, on est parti d'un mouvement sur, au fond, le pouvoir d'achat, très justifié. Puis tout d'un coup, voilà qu'on est envahi par ce RIC qui est comme un coup de baguette magique qui viendrait résoudre
tous
les
problèmes. Avec vous.
Qui viendrait résoudre. Mais c'est un piège, c'est un mirage.
Vous savez, je vais vous donner un exemple très précis. J'étais le long des manifs de Gilets jaunes ce week-end et il y a très peu de tracts autour des Gilets jaunes. Et les seuls tracts que je peux avoir, c'est des tracts sur le RIC. J'en ai eu un, je l'ai pris. Là, vous voyez, c'est un tout petit tract qui dit « Un RIC pour une banque nationale et se libérer de la dette ». Et c'est une espèce mantra qu'on trouvait partout le long des cortèges. Un RIC, une banque nationale, se libérer de la dette.
Ce qui repose la question de l'Europe.
C'est un truc magique, vraiment. Alors moi, quand j'ai des discussions avec les Gilets jaunes, j'ai dit quelque chose que je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas le courage de vous présenter vous-même? Et alors à ce moment-là, on répond très souvent, mais non, on veut pas être représenté, on est tous le peuple. Non, mais ça fonctionne pas comme ça. Et dès qu'il y en a un dont la tête sort, on lui coupe la tête. Je veux dire, ça peut pas marcher comme ça. Le RIC sera pas un coup de baguette magique. Ça n'existera pas. On vous trompe quand on vous raconte des choses comme ça.
Alors, j'ai une phrase de Gilet jaune que je vous donne. Là, c'est un Steven Lebet Gilet jaune cité dans Le Figaro qui dit « Le président de la République pourrait être licencié par le peuple, son employeur, s'il ne respecte pas le programme pour lequel il a été élu. » C'est ça le RIC pour Steven Lebet.
Daniel Simonet. En même temps, je trouve ça assez sain. Vous votez. Vous élisez des hommes et des femmes. Moi, je suis conseillère de Paris. Si, à mi-mandat, ou même à partir du tiers du mandat, on est en désaccord parce qu'on estime que je n'ai pas respecté les engagements ou que j'ai eu un comportement scandaleux pour X ou Y raison, le pape doit pouvoir décider de me révoquer. Et je trouve ça très sain que du président de la République à l'élu municipal, il y ait cette possibilité à partir d'un seuil de pétitionnaire. Donc imaginons un seuil de 5% des inscrits sur les listes électorales. Mais je vais vous donner une autre raison sur la question du RIC. Parce que on a une problématique majeure dans ce pays qui est la question écologique. Dès le début, le mouvement des Gilets jaunes s'est fait contre les taxes sur les carburants, mais tout de suite on a vu les pancartes et les slogans qui étaient de dire, mais quelle injustice, nous on paye les carburants, des taxes sur les carburants alors qu'on n'a pas d'alternative possible à notre voiture, et pendant ce temps Total paye zéro impôt. Et il y avait cette compréhension que finalement, eh bien on avait quand même un gouvernement beaucoup plus à la solde des lobbies, ce qui était gravissime pour la planète. Quand on voit qu'on est dans une situation d'extinction de notre humanité, et qu'on voit les rapports du GIEC, eh bien je pense que la question du RIC permettrait beaucoup plus de développer des propositions de loi conformes aux enjeux climatiques que ne le fait l'actuel gouvernement, complètement à la botte des lobbies.
Alors, Claude Pasternak.
Autant je souscris à la volonté que le peuple puisse s'exprimer, révoquer, c'est autre chose. Alors vous faites référence en particulier au réchauffement climatique. Je vous rappelle que la France est le pays au monde qui produit le moins d'énergie carbonée. C'est-à-dire qu'on est 1% de la population et on est au moins, et c'est nous qui réclamons le plus. Mais bon, ça c'est une chose. Je pense que vous pouvez pas révoquer, autant vous pouvez poser des questions, interroger les politiques, et vous êtes dans cette légitimité-là, et il faut l'ouvrir au plus grand large. Mais la démocratie, c'est pas ça. La démocratie Athènes, c'était quoi? C'était des gens qui se réunissent pour la première fois, et qui pour la première fois, au lieu de dire « au nom de Dieu, nous avons décidé », ils disent « nous pensons au nom des hommes ». Bon, au nom des hommes, on prend des décisions, on choisit une délégation de pouvoir, il faut la respecter. Vous pouvez pas à tout prix révoquer. Alors que ce peuple, à un moment donné, ne soit pas absent des débats, il ne doit pas être absent du débat. Et surtout quand le peuple le demande. Moi, j'ai jamais peur quand le peuple dit « il faut que je parle, il faut l'écouter ». Surtout que nous sommes entrés dans une période où, quelque part, le président de la République a ubérisé la vie politique. Donc c'est pas étonnant aussi que il y a une ubérisation qui continue. C'est-à-dire que ce qui a été enclenché par le président de la République, c'est une réalité. C'est-à-dire que crise des élites. Hein. Et pourquoi crise des élites? Quand vous avez 6 500 000 personnes inscrites à Pôle emploi et qu'on vous promet depuis 30 ans que ça va changer, lorsque vous avez une dette...
Les seuls qui voient leur revenu vous a, qui progresse et lorsque, les dividendes des actionnaires vous a, et les
lorsque
plus riches.
Lorsque vous avez une dette qui ne cesse d'exploser et des déficits qui ne cessent d'exploser alors que vous avez des élites extrêmement compétentes que j'appelle la bourgeoisie d'État qui nous représente et qui défend les intérêts de cette bourgeoisie d'État, aujourd'hui, il faut aller extrêmement plus loin. Mais pas à la révocation. Parce que si vous allez à la révocation, mais attendez, c'est le twist permanent, c'est impossible. Vous pouvez pas dire aux gens, bah écoutez, on vous donne un mandat. La France a besoin d'être menée d'un point de vue ferme. On est en Europe, on est dans le monde, il y a une compétition internationale. Il faut légitimer des dirigeants et vous pouvez pas en changer.
Mais si ces dirigeants un font une politique qui répond à l'intérêt général et qui sont en capacité de convaincre...
Ils sont élus sur un programme.
Respectez le mandat.
Vous n'avez jamais Emmanuel Macron a été élu sur un programme, exactement. Il essaie de le mettre en place.
Non, vous savez bien que Emmanuel Macron a été élu parce qu'il fallait empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Et le problème, c'est que
Chirac
l'illégitimité. Donc, la question est la suivante. C'est le peuple qui est souverain, d'accord? Donc une politique doit répondre à l'intérêt général. Pour répondre à l'intérêt général, eh ben oui, il faut convaincre de la politique que l'on mène. Hein. Aujourd'hui, les projets, par exemple, de contre-réforme sur les retraites, les programmes, les propositions de contre-réforme, le décret scandaleux à l'encontre des droits des chômeurs, toutes ces mesures-là, on sait pertinemment qu'elles vont à l'encontre de l'intérêt général.
Il faut respecter les temporalités. Vous avez de l'horizontalité et de la verticalité. Vous avez des temps longs. Le temps long, c'est le temps du débat. Mais lorsque le débat est tranché, il faut être dans la verticalité, c'est-à-dire appliquer et être dans l'efficacité.
Nicolas Domenech.
Bien sûr, justement parce que l'époque est à l'accélération, il faut aussi concevoir la politique sur un temps long. C'est important de savoir que le mandat, eh bien, il peut durer 5 ans. Le vôtre conseiller municipal, c'est combien déjà, rappelez-nous.
Daniel Simonet.
C'est 7 ans.
Voilà.
Bon, et c'est important de pouvoir être jugé à la fin. Et maintenant, rêvons un peu. Jean-Luc Mélenchon avait eu les 600 000 voix qui lui a manqué, ou je ne sais plus combien, pour être qualifié pour le second tour.
Quel doux rêve.
Voilà.
Mais ce sera une réalité. Vous inquiétez pas.
Sincèrement, vous imaginez qu'il aurait renoncé à l'exercice de ses pouvoirs au bout de 2 ans.
Bien sûr, s'il était révoqué, bien sûr.
Comme on en avait l'exemple, ce que je vous disais avec François Mitterrand, la démonstration qui avait dénoncé les institutions de la 5e.
Mais les pays où ça a lieu, c'est respecté. Je vais vous dire une chose. Le problème, c'est qu'on parle aussi beaucoup de démocratie locale participative. Et vous avez dit une chose avec laquelle je suis d'accord tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas limiter, il ne fallait pas aborder la question nationale, sauf que moi, je n'oppose pas. Je pense qu'il faut plus de souveraineté populaire à l'échelle nationale et aussi à l'échelle locale. Madame Hidalgo, par exemple, sur Paris, se vante souvent d'être celle qui serait à la pointe de la démocratie participative, avec un budget participatif, bon, qui est limité à 5% de budget d'investissement. Mais ce qui est caricatural, c'est que vous avez une sollicitation pour faire des projets sur ces 5% de budget d'investissement, et à côté de cela, la ville de Paris prend la décision d'accueillir les Jeux Olympiques, de faire des tours de grande hauteur Bercy-Charenton totalement anti-écologiques, et sur des grands choix comme cela, jamais les citoyens et les citoyennes, les Parisiens, Parisiennes ne sont sollicités. Donc là, il faut maintenant que les politiques puissent s'adosser sur l'implication citoyenne.
Oui, mais l'implication citoyenne, on le sait, à ses limites. Par exemple, est-ce que la peine de mort par référendum ça serait passé? Je ne pense pas. Est-ce que l'avortement par référendum serait passé? Je ne pense pas non plus. Alexandre Devecchio.
Je n'en sais rien, mais enfin, je fais confiance aux gens, mais je pense que vous êtes marrant. Vous pensez.
C'est la première fois qu'on me le dit.
Impersonnel, mais une partie des médias ou de la classe dirigeante qui pensent qu'ils sont dans le camp du bien et que y a des choses qui doivent être imposées par le haut. Quand on est démocrate, on est jusqu'au bout. Et effectivement, c'est amusant parce que Mélenchon est pour le référendum d'initiative populaire. Mais je ne suis pas sûr que les résultats des votes iraient dans le sens qu'il entend et qu'on aurait le formidable peuple écolo, gaucho dont il rêve. Donc voilà, mais moi je ne m'en plains pas, je fais confiance aux gens. Je pense qu'on aura un vote assez conservateur, mais que ça peut aussi faire du bien dans une période de dérive progressiste.
Et bien ce sera le mot de la fin. Peut-être que vous avez repéré quelque chose.
Non, j'ai repéré une phrase, une autre phrase d'Alexandre de Vecchio qui lâche quelques jolies phrases. Le référendum est parfaitement compatible avec la monarchie républicaine.
Daniel Simonnier, vous vouliez rappeler la situation?
Oui, je voulais, puisqu'on parle là beaucoup de démocratie, on a la chance, nous, ici, de pouvoir en débattre. Leyla Güven est une députée turque du HDP qui est emprisonnée depuis un an et qui a engagé une grève de la faim depuis le 7 novembre. Aujourd'hui, elle est dans le coma, elle est entre la vie et la mort. Et il y a un silence médiatique que j'aimerais vraiment rompre. Il faut absolument se mobiliser et soutenir. Les Kurdes ont été les meilleurs combattants contre Daesh. Ils luttent aussi contre le fascisme qu'incarne la politique de Erdogan et l'islam politique intégriste de l'AKP.
C'est le seul mouvement aujourd'hui en Europe qui, que ce soit une organisation familiale, une organisation militaire, une organisation sportive, vous avez à la tête un homme et une femme.
C'est un mouvement féministe, et donc toutes les femmes du monde doivent se sentir solidaires.
Ce soir, c'était l'alliance entre La République En Marche et Les Insoumis. Quelle merveilleuse émission. Merci à vous tous, merci Daniel Simonnet, merci Alexandre Devecchio. Nicolas Domenac, je rappelle que Le Tueur et le Poète vient de paraître chez Albin Michel, et Claude Posternak, Le Nouveau Partage pour un nouveau pacte politique, économique, social et fiscal entre les Français, est disponible chez Fauve Éditions. Merci à vous quatre. On se quitte avec L'Homme Pâle. Son nouvel album Janine est déjà disque de platine. C'est trop fort, non? C'est trop beau sur France Inter.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours le chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.
trop beau, le titre de L'Homme Pâle à son zénith. Oui, deux zéniths à Paris pour L'Homme Pâle, les 20 et 21 février prochains. Bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini pour aujourd'hui. Le NRV, cette année, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis toujours en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. Et 22h minuit, c'est à l'antenne. Réalisation signée Marion Lelay et Juliette Médevielle. Préparation signée Virginie Rouzic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Marie Mougin et Xavier Crouet. À la technique, Michel Bézikian et Gilles Gaillard. Demain, on se retrouve toutes et tous, et on sera là avec ça.
Shabam, pow, blanc,
des bulles et des bams pour le festival d'Angoulême, et en première heure, une nuit au musée avec le cinéaste Ritipan qui se projette au Louvre. À ses côtés, Joachim Lafosse continue son cinéma. Voilà, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
Rendez-vous.
Tu m'as donné rendez-vous demain.